d'un certain nombre de repères, de méthodes, de choses à prendre en compte quand on est devant un problème éthique. Je vais vous parler de l'affectivité. L'affectivité dans l'éthique. Je vais vous parler de rationalité. Je vais vous parler d'incertitude. Et puis je vais vous parler, c'est même le plus gros de mon topo, c'est l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Des concepts qui sont très classiques en éthique, quand on est un peu branché sur ce domaine, que je vais vous développer. Éthique de conviction, éthique de responsabilité. Et à la fin, on va rebondir sur le cas de Teresa, avec tout ça. Tous ces éléments, vous les découvrirez dans le livre de Jean-François Malherbe, dont nous avons 5 ou 6 exemplaires, et qui est vraiment une merveille, hein, ce livre. Hein. C'est un homme qui a fait une grande synthèse de plein de courants qui traversent la recherche bioéthique. Et donc, je me réfère beaucoup à lui pour ce cas. Alors, l'affectivité. Alors, comme on l'a remarqué, au niveau sonore et puis à nos réactions, et c'est très rempli sur le côté gauche, hein, l'affectivité, je crois qu'il faut vraiment admettre cela simplement, intervient dans toutes nos décisions et apparemment même dans les décisions les plus rationnelles. Ça a l'air d'être rationnel, mais l'affectivité est pour beaucoup par derrière, dans la prise de décision. Malherbe dit, ce qui nous met en mouvement, en définitive, ce sont plus nos émotions que nos théories. Simplement savoir cela déjà. Tiens, il y a un premier jet. C'est pour ça que pédagogiquement, j'ai commencé par poser la question, quel est mon sentiment premier, spontané, avant toute réflexion ? Il ne faut pas tout de suite sauter dessus en disant « c'est mauvais ça ». Comme dans les analyses d'urine, on jette le premier jet. Hein. C'est pas ça. Il s'agit de se dire « j'ai une réaction affective, elle n'est pas tout, elle n'est pas le tout de ma réponse, mais elle me donne un renseignement. Hein. » C'est donc pas forcément une mauvaise chose. Parce que, pour ceux et celles d'entre vous qui ont fait les sessions d'été, pour les professions de santé, eh bien, on a vu qu'un malaise, qui est une réaction émotionnelle, un malaise peut être le point de départ de la formulation d'un problème éthique. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette situation. Je ne me sens pas bien. Je suis mal. Hein. Donc, avant que ce soit réfléchi, c'est senti. Bon. De la même manière, ça c'est le point de départ, mais des émotions aussi peuvent m'aider à trouver la conduite la plus appropriée. Les émotions peuvent également nous servir de guide et de repère. Voilà. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a des conditions quand même pour que l'affectivité en éthique puisse être plus utile que néfaste. Parce que si on est que dans l'émotionnel, il y a des tas de choses qu'on ne fait plus. Et on a vu comme ça des réactions émotionnelles conduire à des décisions. Je pense à dans les débuts du SIDA, on a vu des Américains construire une bulle dans une classe de maternelle pour mettre un enfant séropositif dedans. On avait beau leur faire tous les topos qu'on voulait sur comment fonctionne le sida, le virus, il n'y avait rien à faire, l'émotionnel a régi tout, et les gens se sont cotisés pour construire une bulle dans la salle de classe, et pour mettre l'enfant dans une bulle. C'est l'émotionnel qui est dirigé, vous voyez. Donc ça, c'est des horreurs quand on voit des choses comme ça. Bon. Donc il y a un travail c'est nécessaire, c'est mieux se connaître au plan émotionnel. Je sais que je suis un impulsif. Un jour, l'évêque de Strasbourg, le précédent, il m'avait dit, pas de problème, je vous ordonne prêtre, dès que vous aurez quitté le cabinet médical, vous venez me voir, etc. J'ai quitté un 31 décembre. Le 2 janvier, j'étais dans le bureau du supérieur du séminaire. Coup de téléphone, à peine entré dans le bureau, donc il savait parfaitement par ses renseignements généraux que j'arrivais. Et puis il me dit, écoutez, Bastien, j'ai changé d'avis, etc. Et il commence à m'engueuler, plein de choses comme ça. Alors je dis, mais monseigneur, je n'ai plus de cabinet médical depuis 2 jours. Alors il dit, ah, mais alors ça change tout. Vous savez, je suis un petit peu impulsif comme ça, il ne faut pas m'écouter. Voilà. Bon, il aurait pu m'épargner à moi de faire le travail. Hein, il aurait pu lui ravaler sa propre émotion. Mais il y a des gens comme ça qui sont impulsifs dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ils réfléchissent. Hein? Et ensuite, il a très bien réfléchi, puisque je suis là. Hein? Hein? Voyez. Voilà, mais attention à l'émotionnel. On le sait, et chacun réagit différemment. Et il y a également un autre point, une condition pour que l'affectif puisse être pris en compte, c'est prendre conscience des interférences possibles entre l'événement que vit le patient et puis sa propre histoire. Sa propre histoire. On a vu des gens en politique monter au créneau un peu vite sur toutes les questions relatives au droit à mourir dans la dignité, etc. Et quand on regarde de près, on apprend que leur épouse est morte dans des conditions atroces, dans un très mauvais contexte hospitalier, complètement déshumanisé, etc., etc., etc. Et alors ces gens ont le pouvoir politique, et voilà qu'ils vous bâtissent toute une prise en charge sociopolitique d'un problème qui est en fait le leur. Hein? Voilà. Et il y a donc un certain travail sur soi, une connaissance de soi, qui permet d'intégrer positivement l'affectivité dans la démarche éthique pour en faire une alliée, hein, plutôt qu'un parasite. Voilà, ça c'est une première chose à dire. Ceci posé, on peut arriver à la rationalité, la deuxième chose que je veux dire. La rationalité doit toujours être première. C'est important ça, et ça choque parfois, surtout actuellement, dans cette ambiance un peu émotionnelle qui nous vient des États-Unis, tout doit être émotionnel. La rationalité doit toujours être première. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les intégrer par la raison. Parce que c'est notre dignité que de mettre en œuvre notre raison. L'homme, l'être humain, est un être de raison, capable de réfléchir même ses émotions, capable de prendre du recul et de ne pas se laisser guider par d'autres choses, par exemple son imagination, hein, qui peut conduire jusqu'à des choses extrêmement fantasmatiques et délirantes, hein, notre volonté de puissance, nos idéologies, nos manques de liberté, voire nos lâchetés. Il y a plein de choses qui peuvent nous conduire. Eh bien, de poser la rationalité, de poser la raison, eh bien, c'est poser un lieu de liberté, de dignité, parce que si l'homme est un être de raison, alors on doit pouvoir communiquer d'homme à homme par la raison. Alors que par toutes ces autres choses qui nous meuvent, on ne peut que se rentrer dedans. C'est-à-dire rendre compte en raison. Rendre compte en raison, être capable de dire « je pose tel acte à cause de ceci ». Et que ça soit dit dans une démarche rationnelle, logique, et avec des mots intelligibles par l'autre, dans des concepts intelligibles par l'autre. Donc, raison, ça veut dire rendre compte. Et quand on est au niveau de la raison, on n'est plus au niveau d'une solitude, on est au niveau d'une solidarité. Hein? Parce que raison, ça veut dire pouvoir rendre compte à d'autres, donc je suis dans une perspective de communication et puis de solidarité sociale. Je suis au niveau de la cité et plus simplement au niveau de ma conscience. Hein? Je suis au niveau de la société. Hein? Je me rends compte qu'il y a une incidence de mon acte sur d'autres que moi. Hein? Voilà. Donc, revenons à la première question, s'agit-il d'un suicide assisté? Eh bien, on a dans un premier temps échangé sur nos réactions premières, et ensuite on a commencé à parler, et des choses sont sorties. Et après cet exposé, on va encore continuer de parler. C'est ce qu'on appelle, et c'est pas l'invention de Jean-François Malherbe, c'est d'autres qui l'ont dit ça avant lui, c'est ce qu'on appelle l'éthique de la discussion. C'est quoi l'éthique de la discussion? C'est pas de discuter ensemble sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. C'est bien plus profond que ça. L'éthique de la discussion, c'est une démarche qui croit profondément que de confronter sa perception éthique, son jugement éthique, son appréciation éthique d'un acte, de les confronter avec d'autres, ça oblige chacun d'aller plus au fond de lui-même. Donc, ça humanise chacun. Ça humanise chacun. Puisque si chacun va plus profond en lui-même, il s'humanise. Et si chacun s'humanise, le groupe s'humanise, et donc la solution qui va en sortir va être plus humaine aussi. L'éthique de la discussion, c'est un travail qui se fait sur le groupe lui-même et qui part du principe que personne ne détient la vérité à lui tout seul et qu'il a besoin d'être accouché par un autre plus en profondeur que là où il s'est mis en premier, spontanément. Il a besoin d'être enfanté à plus profond que ce premier mouvement, et de là peut sortir quelque chose qui peut créer quelque chose de consensuel dans le groupe. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le comité d'éthique, c'est comme ça qu'on cherche ensemble, voilà, l'éthique de la discussion. C'est une sorte de réciprocité des consciences. Là, on n'est plus seulement chacun face à sa conscience, on est dans une dynamique de réciprocité des consciences. Si moi, je descends plus profondément dans ma conscience, je t'appelle dans la tienne. Et si toi, tu descends plus profond dans la tienne, tu m'appelles dans la mienne. Et c'est ainsi, si on a de l'honnêteté, il y a quand même des conditions, de l'honnêteté, de l'humilité, de la vérité, eh bien, la conversation se creuse, s'approfondit, et en humanité, et donc en vérité. C'est ce qui est humain qui est vrai. Hein. Donc, suicide assisté. Alors, on a eu des réactions négatives, beaucoup, et on a eu des réactions positives. Vous voyez, premier jet comme ça. Eh bien, Malherbe, il écrit à propos du suicide assisté, c'est un sac vide, le suicide assisté. Donc là, il réfléchit, il n'est plus au niveau de la réaction. C'est de la poudre aux yeux du public, jetée par ceux qui veulent légaliser l'euthanasie sans le dire. Suicide assisté, il dit, c'est de la poudre aux yeux, jetée par ceux qui veulent légaliser l'euthanasie, en parlant de suicide assisté sans le dire. Alors il s'explique. Donc là, je vous introduis dans la démarche, dans une première démarche déjà de Malherbe, rationnelle. Voilà. C'est-à-dire, il n'est plus dans une réaction émotionnelle, ni dans une position, un point de vue. Il ne dit pas « voilà mon opinion ». Il réfléchit. Hein. Il dit premièrement « admettre la notion de suicide assisté serait fragiliser un des piliers de l'humanisation de l'humain, qui est l'interdit de l'homicide ». Si on accepte cette notion comme ça, sans discussion, on fragilise un des piliers de l'humanité qui est simplement « tu ne tueras pas ». Et « tu ne tueras pas », ça ne vient pas de la Bible, hein. Ça vient simplement du fait que quand deux hommes sont ensemble, si on commence à se tuer, il n'y a plus personne. Hein. Bon, c'est aussi bête que ça. C'est l'instinct de conservation de l'espèce et qui a dicté cet interdit de l'homicide. Hein. Alors ensuite, il continue de réfléchir et il dit « toute euthanasie n'est pas forcément un homicide ». Alors attention. Homicide, ça veut dire l'acte de tuer quelqu'un. Hein. On n'est pas dans le criminel ou pas criminel, dans homicide direct ou indirect, dans homicide volontaire ou involontaire. Hein. Ça, c'est du juridisme. C'est homicide, simplement, ça veut dire tuer quelqu'un. Il dit toute euthanasie n'est pas forcément un homicide. Là, il s'avance, notamment par les cas de coma végétatif irréversible, donc on pourrait dire de mort cérébrale, où il n'y a plus qu'une vie biologique. Alors, pour lui, ça, ce n'est pas un homicide. C'est quelque chose qu'on mettra en débat, notamment demain. Hein. Il dit, pour lui, arrêter les machines qui entretiennent les grandes fonctions, ce n'est que resynchroniser la mort qui s'est passée en deux temps. Il y a d'abord eu une mort cérébrale, et il y a une vie biologique qui continue, et d'arrêter les machines, ça achève un mouvement qui était déjà commencé. Mais ce n'est pas ce qu'il appelle, lui, un homicide. Bon. C'est une position qu'il injecte dans le débat. Toute euthanasie n'est pas nécessairement un homicide. Et puis, il dit aussi, il y a des situations où l'homicide est légitimé au titre du moindre mal. Ça vous choque peut-être, hein, mais il ne faut pas chercher loin. Le tyrannicide. C'est-à-dire, les gens qui ont mis des bombes sous la table de Hitler, qui n'ont jamais réussi à le faire sauter d'ailleurs, hein, mais personne ne leur a jamais dit « vous êtes des criminels ». On leur a dit « chapeau ». Chapeau, il fallait faire sauter ce type. Hein. C'est le tyrannicide, et quasiment les grandes religions, le christianisme en tête, disent « si toutes les solutions diplomatiques, de parole, de conciliation ont échoué, et si un homme continue d'être à l'origine de la mort massive, d'extermination systématique, eh bien, cet homicide est légitimé au titre du moindre mal. » La légitime défense. Le tyrannicide, en fait, est une forme de légitime défense, mais d'une société. La légitime défense. C'est-à-dire, la morale dit ceci, c'est mieux de mourir que de tuer, mais on ne peut pas exiger de chacun cet héroïsme. Donc, comme on a aussi un devoir de protéger sa propre vie, eh bien, si quelqu'un est à l'évidence en train de me tuer, si je me défends, et si en me défendant, ça cause la mort de l'autre, eh bien, je suis en légitime défense, et donc cet homicide ne peut pas être considéré comme moralement injustifié, voyez ? Ça reste un homicide, hein, il y a mort d'homme, mais on est dans l'appréciation morale. Ou bien, au niveau des nations, il y a la guerre défensive, c'est toujours la légitime défense. Une nation est souveraine chez elle, eh bien, elle est envahie par une autre, il y a le droit de se défendre. Mais en général, quand on se défend, il y a toujours quelqu'un qui écope en face. Hein. Voilà. Voilà. Malherbe pose la question de certaines situations d'échec des soins palliatifs. Mais là, on écoutera Véronique. Demain, on verra si ça existe et qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Mais outre cet arrière-plan éthique, donc voyez, quand on commence à réfléchir, suicide assisté, qu'est-ce qu'il y a là derrière, homicide, parce que quelle est la différence entre suicide assisté et homicide, hein? Alors, il dit, si la personne meurt par le fait d'une autre personne, il y a homicide. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit suicide assisté alors qu'il y a homicide, hein? Et si quelqu'un est mort par la faute d'un tiers, c'est-à-dire par l'acte d'un tiers, même à la demande de ce tiers, ça ne change rien à la qualification de l'acte. C'est quand même un homicide d'ordre criminel. Le tribunal vous prendra comme un homicide volontaire, c'est-à-dire un homicide criminel. Voilà. Mais du point de vue éthique, hein, on pourrait éventuellement trouver des circonstances atténuantes s'il est avéré que la personne était dans un état tel que, etc., enfin plein de choses, mais ça ne change pas grand-chose à la qualification de l'acte. Ça modifie éventuellement l'appréciation morale, hein, en atténuation, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Mais si l'acte qui a donné la mort est le fait du mort lui-même, dans ce cas-là, il s'agit d'un suicide sans assistance. Donc vous voyez que la notion de suicide assisté, c'est une notion qui est bricolée comme ça, mais qui rationnellement est assez difficile à tenir. Parce que soit on est dans le suicide, soit on est dans l'homicide, mais suicide assisté, c'est une espèce d'intermédiaire, on ne sait plus qui a fait quoi. Suicide assisté, il y a l'un et l'autre. Et il n'y a plus de responsable. Hein? Alors, vous voyez, j'injecte les éléments comme ça. Affectivité, rationalité. Quand on commence à réfléchir, vous voyez, maintenant on n'est plus dans le premier jet. On réfléchit. Qu'est-ce que c'est, suicide assisté? Ça tient sur quoi, bon? Alors, on arrive à la notion aussi d'incertitude en éthique. L'incertitude en éthique. On veut bien qu'un homicide soit qualifié de moindre mal. Hein? Dans certaines situations, c'est un moindre mal. Mais comment être sûr que la conséquence de notre acte est effectivement un moindre mal? C'est une appréciation qui est très difficile à poser en termes de raison. On peut estimer que c'est un moindre mal, mais il suffira d'en parler avec quelqu'un d'autre qui estimera que ce n'est pas un moindre mal, que c'est toujours un mal. Hein? Est-ce que l'avortement est un moindre mal dans certaines situations? Il y a ceux qui disent évidemment, il y a ceux qui disent ce n'est jamais un moindre mal. C'est un mal, point. Donc on arrive dans une zone d'incertitude. Hein? Et c'est là que Malherbe en appelle d'abord à une grande modestie. Il écrit ceci. Le risque que court une conscience morale qui décide d'une transgression, hein, il s'agit ici de la transgression de l'interdit de l'homicide, est véritablement majeur. La conscience morale prend un risque majeur. Quelqu'un a employé le mot de risque d'ailleurs, mais il prend un grand risque, oui. C'est le risque de la démesure. Alors il fait un petit excursus philosophique. Les Grecs l'appelaient l'hubris et les évangélistes le péché contre l'esprit. Je n'ai jamais entendu parler du péché contre l'esprit comme ça. C'est s'attribuer une compétence et un jugement éthique certain sans avoir pris la peine de les cultiver sa vie durant. Ça, c'est intéressant. Enfin, tout d'un coup, en situation absolument aiguë où il y a des enjeux monstrueux, eh bien, on s'attribue une compétence et c'est démesuré dans la mesure où toute sa vie durant, on ne s'est pas exercé à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout d'un coup, effectivement, il y a une sorte de oui, démesure, je crois que c'est un terme qui va bien, des démesures, de disproportion entre le pouvoir qu'on s'attribue et la manière dont on a vécu sa vie durant. Hein? Ensuite, François Malherbe montre que toute décision morale, surtout quand elle est en forme d'impasse, hein, ou maintenant devant une situation comme ça, qu'est-ce que je fais, comporte toujours du négatif. C'est-à-dire qu'il nous faut intégrer, et nous, pour les professions de santé, c'est particulièrement évident, qu'il y a un négatif irréductible. Dans les situations très difficiles, hein, où on a l'impression que de chaque côté de la balance, il y a autant de poids, hein, on ne s'en sortira pas avec que du positif. Il y aura toujours un reliquat de négatif, un négatif irréductible. Ne pas le nier, mais l'accepter, en cherchant néanmoins, bien sûr, à le réduire autant que faire se peut, et notamment en maximisant le positif. Hein? C'est-à-dire faire le plus possible pour que, sur la balance positive, c'est-à-dire de ce qui est moralement justifiable et défendable et bon, on mette le plus de poids possible là. En termes de respect de la personne, de relation, de communication, d'information de la conscience de l'autre, de concertation, tout. Voilà. Mais il restera toujours une marge d'incertitude dans toute décision de ce type. Et Malherbe voit trois causes à cette nature irréductible de l'incertitude. C'est d'une part la nature statistique de la science médicale, qui est probabiliste. Hein. On dit, il mourra probablement. Bon, premier point, il mourra probablement dans tel délai, probablement. Bon, mais il y en a toujours qui s'en foutent des délais. Hein. Il y en a qui auraient dû mourir, qui sont toujours là. Il y en a qui n'auraient pas dû mourir, qui sont plus là. Bon, la nature statistique, il y a déjà une incertitude de la médecine. Mais il y a aussi la vulnérabilité affective des soignants. Comment est-ce que je peux être sûr à 100% à un moment donné de ce que me dit ma conscience morale, sachant qu'il me sera toujours impossible d'être totalement transparent à moi-même, à mon affectivité, à mon émotionnalité, à mon histoire, à mon inconscient. Hein? Comment être sûr? Comment être sûr? Je penserai toujours à cet exemple que m'avait donné un jour un médecin de Strasbourg qui, à l'hôpital, qui a pris conscience des années après avoir pris une décision d'amputation des jambes d'une jeune femme. Non, après n'avoir pas pris la décision d'amputation des jambes d'une jeune femme, qu'en fin de compte, cette jeune femme était tellement belle qu'il ne pouvait pas l'imaginer sans ses jambes. Mais des années après, mais sur le coup, il pensait avoir fonctionné de façon tout à fait rationnelle. Mais c'est 10, 20 ans après qu'il s'est dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'animait donc quand j'ai plutôt choisi de laisser mourir cette jeune fille qui était tombée de cheval, le cheval était tombé sur ses jambes, qui mourait de gangrène. Voilà. Et donc, la vulnérabilité affective des soignants, que cela reste toujours pour nous, mais je dirais comme un point positif, à condition qu'il soit intégré. On peut se méfier de sa vulnérabilité, on peut dire, bon, maintenant, personne n'est transparent en soi-même, on ne décide plus. Mais ça ne va pas, ça pose un autre problème moral. Mais on peut aussi dire, je décide, mais peut-être en connaissance de cause. C'est-à-dire, je me fais vérifier, puisque je suis vulnérable affectivement, comme tout le monde. Et que d'une manière ou d'une autre, la mort de l'autre me concerne toujours. La souffrance de l'autre me concerne toujours. La maladie de l'autre me concerne toujours, et le corps de l'autre me concerne toujours. Voilà. Donc, premier point, l'incertitude, la nature statistique de la médecine. Deuxième point, la vulnérabilité. Troisième chose, l'instabilité radicale des patients. Hein? Eux-mêmes, instabilité biologique, instabilité psychique. Ceux qui travaillent en soins palliatifs le savent. Un jour, ils disent blanc, l'autre jour, ils disent noir. Un jour, on croit qu'ils ont compris. Le lendemain, c'est comme s'ils n'avaient rien compris. Incertitude, il y a beaucoup d'incertitude. Or, nous savons, et c'est là quelque chose d'important à prendre en compte en éthique, que l'incertitude génère de la culpabilité. Et c'est pourquoi Malherbe écrit que notre faute éthique, si faute éthique il y a donc culpabilité, hein, notre culpabilité, elle peut résider dans notre manque de travail sur nous-mêmes, mais jamais dans notre incertitude. L'incertitude est quelque chose d'irréductible, d'objectivement irréductible. C'est impossible de réduire une incertitude à zéro. Hein? Donc, on ne peut pas légitimer une culpabilité par l'incertitude. Mais par contre, on peut dire il y a peut-être culpabilité par manque de travail sur soi, par exemple pour apprendre à vivre avec notre incertitude, ou bien notre manque de travail rationnel pour recouper, alors ça c'est très intéressant, pour recouper les différentes incertitudes entre elles, afin de tenter de savoir quelque chose de moins incertain. C'est-à-dire, je prends l'incertitude qui vient d'ici, du patient, l'incertitude du diagnostic, l'incertitude de concernant l'équipe, qui est liée à ce qu'est l'équipe, et je fais des recoupements, pour réduire le plus possible l'incertitude, jusqu'à ce que je ne puisse plus la réduire plus. C'est-à-dire, je recoupe les différentes incertitudes pour essayer de savoir quelque chose de moins incertain. Mais c'est tout ce qu'on peut savoir. Alors, si on a fait ce travail, eh bien, il n'y a pas de raison morale d'avoir de la culpabilité. Il ne restera plus que les raisons psychologiques, mais ça c'est notre affaire de nous et de notre divan. Hein? Voilà. Vous comprenez la différence, hein, entre une culpabilité qui est objectivement fondable dans une faute éthique et un sentiment de culpabilité, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, qui est dans certaines personnes constamment présent, qu'il y ait des faits objectifs ou pas. Hein? On se sent toujours coupable, point. Voilà. Eh bien, l'éthique peut nous aider à situer correctement nos éventuelles culpabilités. Ça, c'est intéressant aussi. Et ça fait partie de l'éthique de discussion. L'éthique de la discussion, que d'identifier qu'il y a culpabilité des personnes isolément, ou même des personnes isolément, déplace-toi, écoute, ou bien du groupe. Il peut y avoir une culpabilité d'équipe. On sait bien ça aussi, hein. Voilà. Eh bien, l'éthique va le permettre de mettre cela en mots et de situer les différentes culpabilités. La distinction classique en éthique médicale entre obligation de moyens et obligation de résultats peut être aidante à cet égard. Hein? On a une obligation de moyens en médecine, mais on n'a pas d'obligation de résultats. C'est-à-dire qu'on ne demandera quand même jamais l'impossible aux médecins, On lui demande d'être responsable et on lui demande d'être compétent. Et c'est là-dessus qu'on va se situer maintenant. C'est-à-dire, on va parler de cette histoire de responsabilité, mais aussi d'une autre notion en éthique qui s'appelle la conviction. Hein? Éthique de conviction, éthique de responsabilité. D'abord, d'où ça vient? Vous allez voir que ça vient de très... C'est un concept qui a 70 ans d'âge. Hein? Mais s'il n'est pas tellement parvenu dans le milieu médical, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'il a été... pour trois raisons, je dirais. Il a d'abord été conçu, ce concept de distinction éthique de responsabilité, éthique de conviction, dans le domaine politique. Hein? Donc, c'était une distinction qui était d'abord à l'usage des politiques. Deuxièmement, celui qui a pondu ça, il n'est même pas médecin. Et là, vous connaissez le dédain souverain qu'ont les médecins, et surtout les grands pontes qui, jusqu'à présent, s'occupaient d'éthique, de tous ceux qui ne sont pas médecins. Bon. Et je ne parle même pas des infirmières, parce que les infirmières non plus ne sont même pas médecins. Hein. Voilà. Avant, on ne faisait pas d'éthique avec les infirmières, vous le savez bien. C'était qu'entre médecins que ça se passait. Et puis la troisième chose, c'est je pense aussi que, tout simplement, dans les pays latins, eh bien, l'éthique a eu un mal fou à pénétrer le milieu médical. Hein. On parlait de la morale par l'exemple. Alors ça, c'est les grands noms comme Rambourget, qui écrivait des traités, des petits livres à l'usage des étudiants, des futurs médecins, en termes de, pour être un bon médecin, il faut faire ceci, et puis il faut éviter cela. Et ensuite, il disait, venez avec moi faire la visite, et puis regardez-moi bien. C'est comme ça qu'on faisait la morale par l'exemple. Quand j'ai fait ma thèse de médecine sur l'enseignement de l'éthique biomédicale en 87, donc ça fait 11 ans, et que je suis allé voir le président du Conseil national de l'Ordre des médecins d'alors, il m'a dit, c'est quoi cette affaire? La morale de l'exemple ne vous suffit plus? J'ai dit, non monsieur, la morale de l'exemple ne suffit plus. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui montrent l'exemple. Hein? Et votre génération est en train de partir, donc il va falloir changer de modèle. Il faut qu'on se forme soi-même. Donc en 1919, un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Max Weber a fait une conférence. C'est une conférence, après il en a fait un livre, mais qui s'appelait « Politik als Beruf », la politique ou le politique comme métier. Beruf, c'est à la fois métier et vocation. Comme métier et vocation. Ou le métier et la vocation d'homme politique, comme ça a été traduit en français. Et il disait dans cette conférence, cela ne veut pas dire que l'éthique de conviction, je développe tout à l'heure, soit identique à l'absence de responsabilité. Ceux qui ont des convictions, moi je pense qu'ils ne prennent pas de responsabilité. Et l'éthique de responsabilité à l'absence de conviction, il n'en est évidemment pas question. Donc il ne faisait pas une distinction pour opposer, il faisait une distinction pour d'abord pour pouvoir réfléchir séparément les choses et pour ensuite voir comment ces deux aspects, ces deux modèles éthiques pouvaient s'enrichir. Et on verra que l'enrichissement n'est pas évident. C'est-à-dire qu'à la question éthique, que faire pour bien faire? C'est ça la question éthique. Hein? Que faire pour bien faire? Voilà, on est devant Teresa. Que faire pour bien faire? Il n'est pas suffisant de répondre, eh bien, agis en conformité avec tes convictions. Il n'est pas suffisant de répondre ça. Agis en conformité avec tes convictions. Il faut aller plus loin et dire, continue d'agir en conformité avec tes convictions, mais veille aussi à assumer tes responsabilités. Parce que nous devons toujours répondre des conséquences prévisibles de nos actes, dit Max Weber. Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. L'éthique de conviction, c'est toujours Weber qui parle, et l'éthique de responsabilité ne sont pas contradictoires, mais se complètent l'une l'autre et constituent ensemble l'homme authentique, c'est-à-dire un homme qui peut prétendre à la vocation politique. Il faut donc avoir des convictions et puis être capable d'assumer ses responsabilités. Maintenant, je vais vous donner des exemples pour que ça devienne un peu concret. Éthique de conviction. Alors là, ce qui est marrant, et enfin, on le sait quand on regarde l'actualité, actuellement, sur le champ de bataille mondial, les éthiques de conviction s'affrontent à qui mieux mieux. Hein, vraiment, partout. Par exemple, vous avez l'éthique de la sacralité de la vie d'un côté et l'éthique de la libre disposition de soi de l'autre. Là, on n'est que dans le domaine, par exemple, de l'homme et de la bioéthique. Hein, tout ce qui touche. Hein. L'éthique de la sacralité de la vie, ça dit quoi? Toute vie est sacrée. Alors ça va jusqu'aux formes extrêmes de l'hindouisme, avec, vous savez, cette histoire qui a choqué tout le monde il y a 20-30 ans, la vache sacrée. Vous avez un peuple famélique qui est là en train de crever de faim, et puis il regarde passer une vache sacrée, mais personne ne la mange. parce que on respecte toute vie sacrée. Ou bien ça va jusqu'à ces positions extrêmes de Albert Schweitzer, qui a emprunté beaucoup avec Schopenhauer au bouddhisme, et qui roulait en voiture à Lambaréné, et puis il voit un ver de terre ramper et traverser péniblement le chemin sur lequel il roule. Il s'arrête, il prend le ver de terre, il le dépose sur le bord et il continue son chemin. Bon, il faut bien regarder pour voir les vers de terre, hein. Ou bien, quand comme il a beaucoup construit à Lambaréné, quand il faisait un trou pour planter un pic, un poteau, eh bien, s'il voyait les vers de terre, il les enlevait un à un. Ça allait très très loin. Il se laissait bouffer le soir par les moustiques, alors qu'il écrivait jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, tous les soirs. Eh bien, parce que plutôt que de tuer un moustique. C'est l'éthique de la sacralité de la vie. Moyennant quoi, une fois qu'il était bouffé par les moustiques, il était odieux avec sa femme. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est certains de ses biographes qui racontent ça. Ou bien, donc, chez certains doutiers sacrés, comme certaines formes de bouddhisme, l'hindouisme, un certain écologisme radical, ou bien certains disent, seule la vie humaine est sacrée. Et c'est plutôt une position qu'on rencontre dans les religions monothéistes. Hein. Islam, très fort. Judaïsme, très fort. Christianisme, très fort. Mais si en islam et en judaïsme, il n'y a aucun débat là-dessus, en christianisme, il y a un débat là-dessus. Le christianisme est-il une religion de la sacralité de la vie ou pas? Il suffit de lire le catéchisme de l'Église catholique pour ne pas le croire, puisque dans le catéchisme universel, on nous dit que le tyrannicide est autorisé, la légitime défense, la peine de mort sous des conditions de plus en plus restreintes, mais quand même, bon, c'est-à-dire, donc c'est pas une sacralité de la vie, puisqu'il y a quand même des cas où on peut tuer. Bon. Donc, on ne sait pas. Le christianisme, c'est un débat. Le fondement théologique de ça, dans les religions monothéistes, c'est Dieu qui est créateur, c'est Dieu qui donne la vie, donc c'est lui seul qui peut en disposer, c'est simple. Un homicide, dans ce cadre-là, est criminel et sacrilège tout à la fois. Hein. C'est criminel au plan humain, sacrilège au plan de Dieu. Ça va. Vous voyez, vous avez donc une éthique de la sacralité de la vie. Alors ça fait, par exemple, dans les formes extrémistes, Xavier Dore, dont on a beaucoup parlé, qui s'enchaîne à une chaise gynéco d'une salle d'avortement, et qui fait ça, qui récidive. Ou bien le cinglé américain qui a carrément tué un gynécologue qui pratique des avortements. Alors là, c'est la sacralité de la vie qui se mord la queue. Hein. Parce que la vie est sacrée, il en tue un. Hein. Bon, l'éthique du droit à disposer de soi-même. Alors ça, c'est complètement différent. Là, on n'est plus dans des fondements théologiques, on est dans des fondements philosophiques. Rien n'est plus précieux, dit ce présupposé-là, que la liberté humaine. Le droit de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec juste une limite, c'est de ne pas nuire à l'autre. C'est un petit peu la philosophie qui est derrière la Déclaration des droits de l'homme. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Hein. Alors on voit que ces grandes écoles d'éthique de conviction s'affrontent souvent. Prenez l'exemple de l'avortement. Pour l'une des écoles de sacralité de la vie, c'est absolument interdit, car la vie appartient à Dieu qui seul décide. La vie est là, donc c'est qu'elle est donnée, donc il faut la préserver, puisque Dieu l'a voulu. Le raisonnement est absolument béton. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais pour l'autre éthique de conviction, c'est à la femme de décider, car c'est son corps, c'est sa maternité, c'est son bébé, c'est sa liberté. Personne ne peut décider à la place d'un autre être humain. Les uns et les autres ont des éthiques de conviction, et ces deux éthiques de conviction s'affrontent. On pourrait faire exactement le même raisonnement sur le terrain de l'euthanasie. Ceux qui disent, c'est ma vie, donc je peux décider de la quitter quand je veux, hein, et j'ai le droit de mourir dans la dignité, et les autres qui ont une autre conviction et qui disent, eh bien, ta dignité, ce n'est pas seulement le sentiment que tu en as, elle est fondée en Dieu, et tu es digne parce que tu es fils de Dieu, donc tu n'as pas le droit de t'enlever ta vie toi-même. Avec ça, on est bien. Hein. C'est la guerre de tranchées, les éthiques de conviction. On voit que ces éthiques de conviction reposent sur un élément qui est de croyance. C'est-à-dire, chacun croit que. Hein, un élément qui est finalement injustifiable. C'est-à-dire, il est injustifiable pour tous. Il est justifiable que à l'intérieur du club ou du groupe qui croit cela, mais pour les autres, il est arbitraire. Et réciproquement. Hein. Et donc, on découle des différences complètes d'appréciation sur la notion de respect de la vie. Hein, la vie de qui, hein, et donc des positions différentes sur l'homicide. Et quand on regarde de près, au sein de chaque école, il y a en plus des divergences qui font qu'ils ont des interprétations complètement différentes. Dans les éthiques de conviction, vous avez les fondamentalistes, vous avez ceux qui ont des options culturelles très marquées par leur pays, etc. Bon. En tout cas, aujourd'hui, l'éthique de conviction marchait très bien dans des sociétés qui étaient absolument homogènes du point de vue de la religion, du point de vue de la culture, du point de vue de la croyance. Hein. C'était quand la France était catholique parce que le roi était catholique. Et il suffisait de dire une chose, tout le monde comprenait tout de suite la même chose et obéissait. Mais dans une société, comme de plus en plus toutes les sociétés multiculturelles, sauf les États islamistes qui maintenant disent non, on ne peut pas vivre ça avec les autres parce que c'est satanique et il faut qu'on revienne à notre loi à nous, alors ils peuvent remettre en place une éthique de conviction, eux. Mais dans une société comme démocratique, comme une société française, multiculturelle, où il y a liberté de conscience, liberté de religion, eh bien, on ne peut plus trancher avec une éthique de conviction seule, la question de l'euthanasie. Ça va, c'est en place juste l'éthique de conviction. Hein? L'éthique de responsabilité. Alors, ça c'est intéressant de définir qu'est-ce que c'est la responsabilité. Et la responsabilité, on peut la situer par rapport notamment à trois approches. Hein? On est responsable de. Hein? Responsable, vous savez que ça vient de répondre. Hein? Alors, c'est être responsable, c'est être capable de répondre de. Hein? Alors, il faudrait être capable, si on veut être responsable, de répondre des conséquences, premier niveau que je vais développer, de répondre de sa compétence à poser l'acte. Est-ce que j'étais habilité à poser cet acte? Est-ce que j'étais compétent pour le faire? Et répondre de ses intentions. Les intentions qui ont présidé à la décision ou à l'action. Donc, conséquences, compétences, intentions. Voilà trois dimensions de la responsabilité. Et vous verrez que de les prendre en compte en elles-mêmes, eh bien, ça donne du poids à cette éthique. Responsabilité à l'égard des conséquences. Hein. Alors ça, c'est clair pour tout le monde. Hein. Eh bien, si je bois mon litron tous les jours, la conséquence prévisible, c'est que je finisse avec un gros foie, et puis une cirrhose, un gros nez et un gros ventre, et puis un jour, c'est fini. Voilà. Bon, si... voilà. Si je roule à 180 à l'heure sur une nationale, la conséquence prévisible, c'est que je me plante. Si je roule à l'envers, dans le sens inverse sur une autoroute, etc. Bon. Il y a des choses qui sont claires pour tout le monde. Tout le monde sait qu'il y a des conséquences directes, des conséquences indirectes ou potentielles. Bon. Mais la question, là où ça devient épineux, hein, c'est est-ce que nous sommes toujours responsables de toutes les conséquences de ce que nous faisons? Alors, c'est là qu'il faut aussi faire entrer l'incertitude. Hein? Max Weber parle carrément de conséquences prévisibles. Et là, il reste rationnel. C'est-à-dire, on n'est pas dans le fantasme, on n'est pas dans l'imagination, on est dans les conséquences prévisibles. Il dit, nous sommes responsables des conséquences prévisibles de nos actes. Première chose, donc ça met déjà un bémol à nous sommes toujours responsables de toutes nos conséquences. Hein? Conséquences prévisibles. En outre, comme on est rarement seul à agir, on pourrait dire aussi qu'il y a des responsabilités partagées. Donc, ok, nous sommes responsables, même des conséquences prévisibles, ok, mais peut-être faudrait voir avec qui. Parce que c'est quand même rare aujourd'hui, avec l'interdépendance dans laquelle la société nous établit, que nous soyons seuls dans un acte. Donc, conclusion provisoire, on est responsable des conséquences prévisibles des actes qu'on pose. On pourra discuter sur prévisible. Ça va venir déjà dans le deuxième point qui est responsable à l'égard des compétences. Hein? C'est-à-dire, une conséquence, et je dis, est prévisible. Je suis responsable d'une conséquence prévisible, mais une conséquence est prévisible lorsque des gens raisonnables, c'est-à-dire qui utilisent leur raison, qui sont bien formés et bien informés, vont l'estimer telle. Donc, vous voyez que la prévisibilité des conséquences est une affaire de compétences. C'est là que le premier point de la responsabilité est lié au deuxième. Deux conséquences. Hein. C'est la question de l'ignorance. Ignorance-compétence. On peut être coupable de son ignorance. Hein. On peut être coupable de son ignorance. Si je dis que je suis responsable d'une conséquence prévisible, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je me forme pour connaître les conséquences prévisibles. Si je prescris un médicament aujourd'hui et qui, dans toutes les études que je connais et qu'on m'a présentées, ne produit jamais tel problème, Eh bien, si dans 10 ans, on sait que telle maladie est attribuée à ce médicament, mais qu'on établit qu'à l'époque où je le prescrivais, on ne le savait pas, eh bien, je ne suis pas coupable d'ignorance, puisque personne ne savait, tout le monde ignorait. Mais si je suis médecin installé et je prescris un médicament sans connaître quelque chose qui est connu, pourtant c'est écrit, et pas dans un cercle restreint d'initiés, qui est connu, c'est écrit dans les publications, et je ne me suis pas tenu au courant, je suis coupable de mon ignorance. C'est ça la responsabilité vis-à-vis de la compétence. Hein? Mais en même temps, on n'est pas responsable d'une erreur commise de bonne foi. Alors vous voyez, là il y a deux choses qu'il faut tenir ensemble. Une chose est de poser un acte dont on peut légitimement penser qu'il va avoir une conséquence négative. Une autre chose est de franchement ne pas croire que ça puisse avoir une quelconque incidence négative. Alors, du point de vue éthique, on va essayer d'apprécier la bonne foi. Mais la bonne foi n'est pas annulée, plutôt, la bonne foi n'annule pas l'incompétence. On peut être incompétent de bonne foi. C'est terrible ça. Et actuellement en médecine, c'est là que je fais un petit procès à un certain engouement qui n'est pas juste pour les médecines naturelles. C'est-à-dire, il y a des médecins qui maintenant, qui laissent passer des situations qui sont pourtant bien cadrées du point de vue scientifique, parce que tout simplement, ils ne sont plus au courant. Ils ne tournent plus que dans les univers, et ils ne lisent plus le minimum des choses, et on sait que pour telle situation, il suffirait de faire tel examen, il suffirait de suivre la personne de telle manière pour avoir un suivi. Ils ne savent plus ça. Ils sont parfaitement de bonne foi. Parfaitement de bonne foi, mais ils sont incompétents. Or, si l'ordre des médecins leur a donné le pouvoir d'exercer et a mis la confiance, c'est pour leur dire, eh bien, tenez-vous au courant. C'est marqué dans le code de déontologie. Se tenir au courant des évolutions de la médecine, etc. Donc, c'est difficile, hein, parce que certaines techniques médicales parallèles demandent de changer complètement d'environnement mental, hein, véritablement de changer de logique. Ce qui fait que, comme le code de déontologie n'intègre pas cela, il nous dit, mais nous vous demandons d'être quand même au courant des évolutions de la médecine. Ce qui fait parfois faire le grand écart à un certain nombre de gens, pour ceux qui veulent bien s'y prêter. Mais en tout cas, l'ordre des médecins tranche aussi là-dessus. Mais pourquoi rester qu'au domaine professionnel? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ça c'est Malherbe qui le dit, une compétence à vivre en société? Par exemple, connaissance des mécanismes sociopolitiques, connaissance des lois, hein, connaissance psychologique. Il y a une manière de parler, de balancer un diagnostic de cancer à quelqu'un sans aucune précaution humaine qui fait que l'autre n'a plus qu'à se flinguer et on dira, mais je lui ai juste dit le résultat et puis c'est flingué. Mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi une compétence? C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut dire de telle manière et bon, j'insiste pas plus. Troisièmement, et ça sera mon dernier point sur la responsabilité à l'égard des intentions. Alors là, c'est là que l'incertitude est majeure. En principe, on devrait pouvoir répondre de ses intentions. Mais nous savons tous qu'on peut commettre une faute avec une bonne intention. Le dicton populaire le dit d'ailleurs, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Toujours dans le cadre de ma thèse de médecine, quand j'étais voir un professeur de médecine légale à Strasbourg et qui m'a sorti les attendus du jugement du procès de Nuremberg en 1947. Et il m'a lu les déclarations des médecins nazis qui découpaient des femmes vivantes, enceintes, pour voir comment réagissait le fœtus, etc. Bon. Et on leur a dit, mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Réponse, pour faire avancer la science. L'intention pour faire avancer la science. L'enfer est pavé de bonnes intentions, vous voyez? Sans aller jusqu'au procès de Nuremberg et à ses horreurs, nous savons qu'il y a des intentions se situer au niveau des intentions, ça ne suffit pas pour juger la valeur morale d'un acte. De même que ça ne suffit pas de juger uniquement sur les conséquences ou sur les compétences. Il faut aussi voir l'intention. Mais l'intention, c'est quelque chose d'ambigu. La notion de bonne intention. Qui peut dire qu'il connaît son intention avec une transparence telle qu'il peut garantir que tel acte, il l'a posé à cause de telle motivation? À 100%. Qui peut dire ça? Mon professeur de tout à l'heure qui a dit non à l'amputation de cette jeune fille, 20 ans après, il s'est rendu compte qu'une fois qu'il a commencé à travailler un peu sur lui... Ça n'arrive généralement qu'après un certain nombre d'échecs qu'on commence à travailler sur soi, vous savez. Et j'ai dit, mon Dieu, mais alors à l'époque, comment j'étais alors? Voilà. Donc l'intention. Il y a toujours des gens qui ont plein de bonnes intentions. Donc, il y a peut-être, on peut peut-être dire, qu'il y a un devoir moral pour toute personne qui veut devenir un vrai sujet de l'éthique, c'est-à-dire responsable, hein, de pratiquer une discipline de la transparence. C'est-à-dire que nous avons là, comme lire des articles de journaux pour la compétence, nous aurions peut-être à être attentifs, à faire un travail sur soi, pas forcément en psychanalyse ou en thérapie, un travail sur soi régulier, personnellement, dans un accompagnement ou dans une vigilance intérieure, pour chasser les opacités, les faux-semblants, les demi-mensonges, les demi-vérités, comme dit Malherbe. C'est-à-dire être dans une attitude constante de mise au clair avec soi-même. Vous voyez, je parlerais plutôt d'attitude de mise au clair plutôt que de dire faire le clair une fois pour toutes, parce que ça n'existe pas. Hein? Voilà. C'est peut-être un devoir moral, ça. Hein? Et surtout quand on prétend agir en moralité. Et c'est là que l'éthique embraye sur un chemin d'auto-transformation, de transformation de soi. Hein? On n'est pas si clair avec soi-même qu'on le croyait. Voilà. Se clarifier avec sa propre histoire, habiter son corps, habiter son histoire. Voilà. Ça demande bien sûr un goût de la vérité sur soi et de l'humilité. C'est là que Malherbe, par rapport aux intentions, il introduit une distinction qui est subtile mais qui me semble essentielle. Il dit qu'il faut distinguer entre intention et mobile. Les intentions et les mobiles. Je vous lis sa phrase. Mais il y a une hypocrisie possible sur l'intention, pas sur le mobile. Il explique. Le mobile, c'est ce qui nous pousse à agir, ce qui nous mobilise. Hein? Le mobile, facile à retenir. Le mobile, c'est ce qui nous pousse à agir, qu'on le sache ou non. Mobile conscient, mobile inconscient. Voilà. L'intention, ce sont les raisons que nous avouons pour expliquer notre agir. Hein? L'intention, c'est l'intention avouée, l'intention produite devant les autres. Mais je n'avais pas l'intention d'eux, ou mais j'avais l'intention d'eux. D'accord? Donc, quelqu'un peut être sincère et se tromper sur ses intentions. Vous voyez, la notion de sincérité qui a été mise en avant par un certain courant d'éthique philosophique. Il suffit d'être sincère. L'authenticité. Jean-Paul Sartre, il était champion de l'authenticité. Il suffit d'être authentique pour être éthique. On peut authentiquement se tromper sur ses intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Par simple inaccessibilité de l'inconscient. C'est vrai pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, le mobile, c'est je peux dire, voilà mon intention, mais le mobile complet, qui comporte l'intention, hein, mais plus que l'intention, c'est-à-dire les mobiles inconscients, eh bien, je ne le connaîtrai jamais complètement. Tout le travail de discipline morale d'un individu va être de chercher à être sincère dans ses intentions, mais surtout sans se raconter d'histoire. Sans se raconter d'histoire. Et puis même, au bout du raisonnement éthique, se dire, même là, il me semble que, c'est-à-dire, même là, je crois qu'il y a lieu de montrer une certaine modestie et de garder une certaine humilité. Ça veut dire, donc, rester ouvert à ce qu'une rencontre avec un groupe d'éthique, avec un collègue, avec quelqu'un d'autre, puisse encore modifier ou faire évoluer les choses. Voilà. Donc, une autre conclusion, un sujet moral responsable, ému par de bonnes intentions, cultive ses compétences, et tâche de prévoir les conséquences de ses actes et d'en tenir compte dans ses décisions. Voilà ce à quoi arrive Malherbe pour la responsabilité. Il reprend les trois choses. Il est mû par de bonnes intentions, les vérifier autant que faire se peut, cultiver ses compétences, ça c'est le devoir de formation, d'information et d'auto-transformation, et puis il tâche de prévoir les conséquences de ses actes, d'en tenir compte dans ses décisions. Et maintenant je termine sur Teresa, parce que vous êtes tous en train de vous demander, mais alors Teresa, où est-ce qu'on en est? Alors, pour apprécier un acte à l'approche de la mort, donc suicide assisté, y a-t-il suicide assisté, y a-t-il homicide, y a-t-il euthanasie? Malherbe donne deux critères, qui sont deux critères qui sont pas spécialement catholiques, pas spécialement chrétiens, pas spécialement, qu'on retrouve très souvent, et qui vont vous paraître très logiques au point de départ, et vous verrez quand on les fait fonctionner, c'est beaucoup moins évident. D'une part, la causalité, deuxièmement, l'intentionnalité. C'est-à-dire, est acceptable, je vous dis son critère éthique, est acceptable, il veut dire éthiquement, hein, un geste qui n'entraîne pas la mort d'un semblable. Est inacceptable un geste qui entraîne de soi la mort d'un semblable. Là, on est dans l'éthique de conviction, hein, parce qu'il pose les choses comme ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi, par exemple, on a beaucoup discuté sur qui est mon semblable. Chez les Grecs, le semblable d'un Athénien, c'était un Athénien. Et un Athénien, ce n'était pas un esclave employé par un Athénien. Donc, je ne tue pas un Athénien libre. Mais je peux tuer un Athénien esclave et je peux tuer tout non-Athénien. Chez les Juifs, le semblable, dans l'Ancien Testament, vous voyez, c'était l'autre Juif. Hein? Quand on disait « tu aimeras ton prochain », c'était toujours un Juif le prochain, dans le Lévitique. Bon, vous voyez donc la notion de semblable, il y en a qui diront « mon semblable, c'est un blanc ». Ah oui, en France, au XVIIe siècle, le semblable, c'était un homme adulte. Parce qu'il y avait possibilité de l'infanticide. L'infanticide était toléré au XVIIe siècle en France, etc., etc. Vous voyez, donc, c'était une éthique de conviction. Donc, il faut déjà qu'il y ait causalité, c'est-à-dire le geste que je pose cause la mort. Si ce geste cause la mort, c'est éthiquement inacceptable. Si ce geste que je pose ne cause pas la... qu'est-ce que j'ai dit ? Est acceptable un geste qui n'entraîne pas la mort d'un malade, d'un semblable. L'intentionnalité est acceptable, un geste qui ne procède en aucune façon de l'intention de tuer est inacceptable, tout geste accompli dans l'intention de tuer. Avec ça, vous avez la définition de l'euthanasie telle qu'elle circule maintenant partout et sur laquelle il faut qu'on s'entende, sinon on ne peut plus discuter ensemble d'euthanasie. L'euthanasie est un geste qui cause la mort par lui-même, hein, et avec l'intention de donner la mort, de tuer. Donc il y a causalité et intentionnalité. Donc, il faut qu'il y ait les deux. Et là, on est dans l'éthique de responsabilité. Quand on étudie l'intentionnalité, on est dans la responsabilité. Quand on étudie la causalité, on est dans la conviction. On dit simplement... Alors, il faut donc qu'il y ait... Une euthanasie est un homicide coupable si et seulement si ces deux conditions sont remplies. C'est-à-dire la causalité et l'intentionnalité. Ça vous paraîtra peut-être compliqué, parce que c'est du jargon. Mais s'il y a causalité, mais pas intention, alors là, on se trouverait plutôt dans la situation de l'erreur médicale. On a mis une dose trop forte de morphine, hein? On a un cocktail lithique, on l'a mis à dose trop forte, mais on ne savait pas vraiment les doses, donc on est dans l'incompétence. D'accord? Mais ce n'est pas un homicide criminel, ce sera un homicide involontaire ou indirect. Parce qu'il y a causalité, le geste que j'ai posé a bien été à l'origine de la mort, mais sans intention de la donner. Inversement, il peut y avoir intention, mais pas causalité. C'est-à-dire, on met en place des doses un petit peu filées d'un peu quelque chose, quoi. Mais on dit, on n'a pas l'intention de la tuer, la personne. Donc, il y a intention, mais on ne met pas les doses. Voilà, c'est plutôt comme ça. Il y a intention, on se dit, il faudrait quand même en finir. Mais personne ne pose l'acte qui consiste. Alors, on lui met un peu des doses comme ça. Mais là non plus, on est dans quelque chose d'ambigu. Mais les deux critères n'étant pas clairement réunis, on ne pourra pas dire c'est un homicide criminel. Hein? Criminel au sens juridique du terme. À propos de Teresa, il n'y a pas intention de la tuer. Jean-François Malherbe écrit dans la suite du texte, et on le sent d'ailleurs chez son ami, il n'a pas l'intention de tuer Teresa. Il y avait, dit-il, l'intention de pallier une perte d'autonomie. Sa perte d'autonomie, c'est... Cette personne est claire dans sa tête, elle est intelligente, elle a réfléchi même aux questions d'éthique. Elle a une idée sur sa façon de vivre et aussi sur sa façon de mourir, mais pour des raisons qui sont d'abattement ou je ne sais pas quoi, elle est dans son lit et elle ne pourrait plus aller à la pharmacie chercher son médicament. Donc, je supplée à ses jambes et à sa fatigue. Donc, ce n'est ni un homicide direct, ni un homicide indirect concernant Teresa. Il n'y a pas intention. Il n'y a pas non plus, dit-il, assistance au suicide. Car assistance au suicide, ça aurait exigé le geste de lui administrer la dose létale. Or, il a dit, ne m'en demande pas plus. C'est-à-dire qu'il s'est effacé pour laisser le jeu de sa liberté entier. Il écrit dans un autre passage du livre, si Teresa se suicide, je ne serai pas responsable de ce geste. Je ne serai au futur. Hein. Si Teresa se suicide, je ne serai pas responsable de ce geste. Ensuite, il nous dit la fin. Teresa est morte tout naturellement quand son heure est venue. Le médicament en question étant un calmant, elle en a usé prudemment pour apaiser ses maux de tête, mais elle n'a pas consommé de dose létale. Toutefois, quelqu'un l'avait d'ailleurs dit, le fait de détenir à portée de main ce moyen d'en finir l'a rassurée sur son autonomie. C'était pour elle une garantie qu'elle mourrait selon sa propre vision de la dignité.